Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à la collégiale de la FEN, la 61e collégiale de la FEN. Nous allons aborder un sujet très important. Qu'est-ce que l'IoT peut bien amener à la formation? Comment est-ce que l'IoT peut révolutionner la formation? Et est-ce que l'IoT a des chances de le faire? Et puis, qu'est-ce que l'IoT aussi? Donc, toutes ces questions-là, on va avoir la chance d'avoir Philippe Grange qui va pouvoir nous donner son point de vue, son analyse, sa façon de regarder le monde de l'IoT. Et nous avons dans ce domaine-là tous ceux qui désirent écouter, soit on a la possibilité de l'écouter sur AFEN TV, soit sur format radio. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. On mettra dans les notes de l'émission tous les éléments qui seront abordés et ça permettra, si vous avez des questions, à nous les transmettre et nous les transmettrons à notre spécialiste. Manal, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Alors, une première question.
Oui, d'ailleurs, déjà, merci Philippe Grange d'avoir accepté d'être là avec nous pour nous éclairer sur ce sujet-là. J'aimerais bien que vous me dites déjà ce que c'est que les objets connectés, mais un peu, une petite introduction peut-être sur la personne.
Bien sûr.
Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, et avec plaisir, je vais essayer de faire ça de manière concise. Je suis un observateur des technologies de l'information, je suis journaliste à la base, et depuis longtemps, plus de 35 ans maintenant, j'aide les organisateurs de salons professionnels à concevoir des manifestations et notamment à monter des programmes de conférences, de contenu sur différents domaines, les ERP par exemple, les outils de CRM, etc. Et il y a 3 ans, j'ai contribué au lancement d'un salon qui s'appelle IoT World, qui a eu lieu, la première édition a eu lieu il y a quelques semaines, à Paris. Je suis également...
Qui a été un gros succès aussi.
Oui, un succès. Et je suis également le créateur des IoT Awards, qui sont des prix, comme nom l'indique, qui récompensent des projets IoT avancés. Voilà. Donc, je vais parler de... Je ne suis pas un hyper spécialiste des IoT, je suis quelqu'un qui, dans ce domaine, essaie d'observer, de rassembler et de faire que les sociétés et les personnes se rencontrent autour des objets connectés, notamment. Voilà, en substance.
Donc, qu'est-ce que, d'un point de vue de l'observateur que vous êtes, vous pouvez nous dire sur les objets connectés? C'est quoi? D'où ça vient? Comment, si on peut faire une petite définition pour tout le monde, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, bon, c'est pas facile de faire une définition de quelque chose qui est en train, qui est en devenir. Il y a un petit historique qui date de ce qu'on appelait autrefois le M2M, le machine to machine, qui consistait à essayer de faire parler et de superviser des machines entre elles, sans l'intervention de l'humain. Ça date d'une quinzaine d'années à peu près, puis jusqu'à aujourd'hui, ça continue à évoluer. Et entre-temps, notamment grâce à Internet et au format IP, se sont développés des systèmes qui sont composites. C'est comme ça que j'ai défini les objets connectés pour moi. Ce sont des systèmes composites d'électronique, de capteurs ou d'actuateurs et de télécom. Donc, on a des objets, entre guillemets, qui vont à la fois être construits sur des microprocesseurs, sur des mémoires, sur des entrées-sorties, qui vont piloter ou être auxquels on va ajouter un certain nombre de capteurs pour mesurer, pour, détecter des événements, par exemple. Et puis, ces objets-là, on va les faire communiquer à l'échelle au-dessus, vers d'autres machines ou travailler en local, on va en parler tout à l'heure. Donc, en gros, l'IoT, c'est ça. L'objet connecté, c'est ça. Hein.
C'est alors, IoT, pour définir pour les auditeurs, IoT, IoT.
Donc, c'est Internet of Things, c'était l'acronyme originel. Bon, un acronyme comme vous l'entendez qui vient des États-Unis. Bon, c'était aussi pour dire que sous le format IP, sous le format Internet, on raccordait, on connectait des objets et de fait se créait un Internet des objets. Bon, la réalité aujourd'hui est un petit peu différente, même si on a gardé des formats de communication, des protocoles IP. C'est un petit peu différent aujourd'hui. Enfin, en gros, tout le monde comprend cette acception-là et l'intègre désormais. Donc, il y a le M2M qui est un peu l'ancêtre, entre guillemets, qui s'est transformé en IoT, en objet connecté. Et puis, au-delà de ça, ce qui se crée également, ce qui est très important pour moi, ce sont des réseaux d'objets connectés un objet connecté en soi, ça peut avoir un intérêt, mais ce qui est surtout intéressant, c'est d'en avoir plusieurs qui se déploient selon les applications, on va en parler à différentes échelles. Ces réseaux d'objets connectés font des systèmes connectés, d'une certaine manière. Pensez par exemple à une voiture, hein. Et ces systèmes sont également reliés à des niveaux supérieurs qui font des réseaux de systèmes jusqu'à permettre de produire des services inédits liés au fait des objets connectés, hein. Des services qu'on va développer donc, autour de ces réseaux d'objets. Voilà en gros. Donc on a plusieurs échelles et tout part en fait effectivement de l'objet lui-même qui peut être très basique ou relativement complexe, on en parlera tout à l'heure.
Et concrètement, pour donner un exemple qui soit parlant, l'Apple Watch.
Oui, alors des objets connectés, il y en a quand même déjà pas mal autour de nous. Je lisais une prédiction dans ce domaine, comme on est en devenir, le fantasme et la prédiction, bon train. Je lisais une prédiction là, de qui, je m'étais noté ça. On disait, mais dans une vie normale, un être humain va peu ou prou chaque jour très vite se trouver en interaction avec 1000 à 5000 objets connectés sans même le savoir, dans une journée comme ça.
Oui.
Bon, alors ça peut être effectivement une montre qui est connectée. Bon, alors là, si c'est juste une connexion de type téléphonique, c'est d'intérêt relatif. Mais là où c'est un peu plus intéressant, c'est quand on commence à surveiller, par exemple, des paramètres de santé ou de bien-être. Voilà, bon, des objets comme cela, bon, oui, ça constitue... Des objets, ça constitue au moins une base que tout le monde connaît. Moi, j'allais presque dire l'objet connecté qu'on a quasiment tous sur nous, même s'il a des particularités, c'est le smartphone hein, avec lequel nous communiquons. Et puis, il y a des objets connectés, des méta-objets connectés que j'aime bien citer. Alors là, on est complètement à l'autre bout du spectre, mais que l'on connaît aussi. Ben, je dirais une fusée Ariane, un missile... Le cœur Karmat, le cœur artificiel Karmat, pour moi, c'est l'objet connecté par excellence, le méta-objet connecté par excellence, qui va permettre effectivement de sauver des vies, qui en sauve déjà quelques-unes. Voilà, bon, on en a déjà beaucoup ou sous des formes qui sont appelées à évoluer, mais enfin qui commencent déjà à être opérants. Voilà, c'est ça que je veux dire. En termes de chiffres, d'ailleurs, je parlais de fantasmes, c'est vrai qu'on a des études en permanence qui sont toutes plus édifiantes les unes que les autres. Alors là, c'est le journaliste qui parle avec la réserve qui se doit. On nous dit que d'ici 2-3 ans, il y aurait environ 50 milliards d'objets connectés au niveau mondial. D'autres disent un petit peu moins, une trentaine. Vous voyez, on est dans les milliards, hein. On est entre 30 et 50 milliards à échéance d'un ou deux ans. Et des chiffres d'affaires, par contre, qui sont autour de 6 milliards à peu près pour l'échéance 2020, hein, en termes de business. Alors, c'est pour se donner justement des ordres de grandeur.
Donc, et puisqu'on parle de fantasme, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un fantasme de l'homme par rapport à la machine, l'homme dominé par la machine, de Skynet?
Bon, moi, enfin, dans ce que je vois et dans la partie B2B qui m'intéresse, pour l'instant, on a assez peu ce genre de réserve. On n'en est pas là. On en est justement pour l'instant à essayer de définir des modèles économiques autour des nouveaux usages des objets connectés. On en est à découvrir tout ce que les objets connectés aujourd'hui peuvent, tous les services qu'ils peuvent rendre en fait. Hein. Et quand je m'apprête à vous lister tous les grands domaines, vous verrez que dans ces domaines-là, ce fantasme-là ou cette peur-là, elle est relativement absente. Par exemple, les objets connectés, dans l'industrie, on parle beaucoup de l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 s'appuie à sa raison d'être, notamment en la présence d'objets connectés, lesquels objets connectés sont souvent à l'échelle de machines ou à l'échelle de process ou de bout de process manufacturier, par exemple, et vont permettre de développer des applications de type maintenance prédictive. La différence entre la maintenance préventive et la maintenance prédictive, dans un cas, on sait qu'il faut changer des pièces de certaines machines tous les X heures, par exemple, de fonctionnement, X mois de fonctionnement. Ça, c'est la préventive traditionnelle qui coûte relativement cher. La prédictive, c'est au contraire grâce aux objets connectés qui vont écouter, entre guillemets, le fonctionnement de la machine, on va pouvoir prédire que, attention, il va falloir faire une maintenance anticipée, ou alors telle machine, on a largement le temps de s'en servir encore parce qu'elle fonctionne très bien, c'est pas la peine du tout de la réparer. Et puis surtout, on peut surveiller tous ses paramètres de fonctionnement et optimiser également son fonctionnement propre ou le fonctionnement d'un groupe de machines. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des réseaux d'objets. Imaginez une usine dans laquelle on va implanter. Et souvent, c'est une implantation qui se fait de manière de plus en plus simple, par des boîtiers tout simplement, des objets connectés qui vont nous permettre d'écouter le fonctionnement et d'avoir des paramètres sur le fonctionnement, échauffement, tour minute, etc. Et dès qu'on a un réseau, on a une vision de ce qui se passe sur le parc de machines qui sont en train de tourner pour fabriquer des pièces. Et cette vision nous donne quelque chose de tout à fait inédit. On n'a jamais eu ça. Aussi bien en tant qu'exploitant, quand on est le manufacturier lui-même, que par rapport à l'équipementier, celui qui a conçu ces machines et qui les a vendues et qui a besoin souvent de savoir ce qui se passe vraiment sur les machines qu'il a vendues. Et quand on pousse un peu plus loin, et c'est ça la force des objets connectés aujourd'hui, quand on pousse un peu plus loin cette logique, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui ont dit, mais finalement, si les machines que je fabrique et que je vends à des industriels, si je sais les monitorer en permanence sur différents paramètres, si je commence à avoir une image intelligente de ce qui se passe dans l'atelier, par exemple, ou sur ces groupes de machines-là, alors finalement, peut-être que je vais changer mon modèle économique. Au lieu de vendre de la machine elle-même, si je vendais des heures de fonctionnement de mes machines. Et tout d'un coup, vous voyez, il y a une sorte de paradigme nouveau qui se met en œuvre, qui se met en place, où certains industriels notamment, mais je pense aussi à des avionneurs ou des équipementiers dans l'aviation, je crois que General Electric est dans ce cas, ils se sont dit, mais après tout, finalement, notre job, c'est peut-être simplement de fournir de la puissance, de la disponibilité, de la poussée quand il s'agit d'avions. Et c'est peut-être ça qu'on va vendre ou louer, si vous préférez. On va créer ce service de disponibilité plutôt que de vendre des moteurs, des pièces, des machines-outils ou je ne sais quelle machine de puissance électrique, par exemple. Voilà. Et donc, grâce à cette connaissance qu'on a en temps réel sur, qu'on peut avoir en temps réel sur différents équipements, on a une vision nouvelle, affinée, entre guillemets intelligente, de ce qui se passe au sein de ces machines et peut-être au sein d'un atelier et au-delà, au sein de tout un parc de machines quand on est l'équipementier. Et là, on peut même aller jusqu'à changer son modèle économique, se dire, mais finalement, mon vrai job, ce n'est pas de vendre des bécanes, mon vrai job, c'est de vendre du service. Mon client, il veut que ça tourne. Et moi, je lui vends des trucs qui tournent, avec des performances, des spécificités, etc. Bon.
Et j'ose dire, on est encore que au début, avec l'avènement surtout de la 5G par exemple, tout ça, il y a encore des évolutions qui vont éventuellement s'annoncer, non?
Oui, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Je parlerai tout à l'heure de la 5G. Enfin, bon, je peux en parler tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que la 5G ne va pas s'appliquer à tout. La 5G va apporter énormément de choses, c'est évident. Dans le cas des objets connectés en particulier, surtout pour ce qui est de la mobilité. Hein, je recevais sur les salons des personnes de la SNCF. Vous imaginez bien que SNCF est en train de déployer énormément d'objets connectés dans ses différents trains. Et la question qui se pose à tout le monde, mais notamment à la SNCF, c'est en termes de communication, est-ce que je peux à 300, 320, 350 km/h, est-ce que je peux encore communiquer, remonter les données que mes objets connectés vont m'envoyer sur l'état du train? Et est-ce que moi, je peux envoyer des données à mon objet connecté à 300, 350 km/h sans problème? Bon, on voit bien que c'est pareil pour les voitures, hein, on aura le même problème. On voit bien que là, la 5G va permettre, pour ce type d'application en mobilité, notamment, va permettre des avancées. Il y a d'autres solutions, mais celle-là en est une qui est sérieuse, une piste sérieuse. Puis il y a tous les objets connectés qui sont fixes, qui eux n'ont pas besoin de mobilité, et au contraire, souvent, ils ont besoin d'être un petit peu oubliés dans un petit coin, et ils ont très peu de communication, mais par contre, ils sont utiles. Alors cela, la 5G, ça ne va pas du tout les impacter. Hein.
La 5G avec le SaaS donne peut-être un modèle nouveau pour tous ceux qui sont serious game, etc. Et comme on parlait, tu parlais d'usage, ça permet de se connecter en fonction du service et du besoin. Et donc, et comme le temps de latence dans un simulateur, si effectivement il y a trop de temps pour la réaction, ça perd beaucoup de son attractivité. Le gaming a ouvert la voie avec beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dessus qui peut avoir du sens?
Si, il va y avoir. Alors, je ne sais pas si c'est la 5G à proprement parler, mais je sais que ce mariage, entre guillemets, notamment avec la réalité virtuelle, parce que là, il y a la 5G va ouvrir effectivement des flux, des capacités à traiter des flux très, très élevés de données. C'est sûr que ça va débloquer des seuils qu'on a aujourd'hui, notamment en matière de latence. Dans des applications de réalité virtuelle d'apprentissage, de formation, c'est évident que ça va changer les choses. J'ai prévu de reparler de ça tout à l'heure dans un petit moment. Je descends d'autres cas d'usage, si vous voulez bien, autour des objets connectés. On a déjà des marchés. Alors, industrie 4.0 et maintenance prédictive, c'est un marché autour des objets connectés, notamment. Le bâtiment intelligent, ce qu'on appelait autrefois la GTC, la gestion technique centralisée, est devenue une gestion technique intelligente, y compris d'ailleurs dans les maisons. On retrouve certaines offres grand public, hein, par exemple, des objets connectés qui vous permettent de régler ou de surveiller le chauffage dans la maison, ou de régler ou d'avoir une action sur la chaudière, etc. Problématiques autour de l'éclairage, de la sécurité, etc. Le bâtiment.
Ainsi que dans le bâtiment avec le fameux BIM. Donc, cette nouvelle façon de la conception en amont, donc en temps réel, avec tous les corps de métier.
En amont et en aval, on va avoir dans l'exploitation de bâtiments des façons vraiment, là aussi, qu'on appelle intelligente, même si le mot est un petit peu galvaudé, de répartir le chauffage, d'avoir effectivement une vision sécuritaire. Je ne parle même pas des incendies, c'est évident, etc. Il y a un cas comme ça que moi j'aime beaucoup citer, qui a déjà une petite année. Hein, je crois que c'est Suez qui a déployé dans les écoles maternelles de Paris un très grand nombre d'objets connectés qui lui permet de surveiller l'état des classes, notamment avant l'arrivée des élèves, et après, et au départ, pendant et après, mais c'est surtout avant qui est intéressant, de façon à ce que les élèves n'arrivent pas en plein hiver dans une classe pour laquelle le chauffage serait tombé en panne, ça peut être aussi l'éclairage qui serait défaillant, etc. On voit bien ces applications, alors qui sont à grande échelle, là, hein, on parle vraiment de dizaines de milliers d'objets connectés, rien que dans les écoles, mais pour faire qu'on ait des bâtiments utilement chauffés, les classes, par exemple les salles qui ne sont pas utilisées, on n'a aucune raison de les chauffer ni de les éclairer, etc. Donc on commence à rentrer vraiment dans des applications là aussi assez rapidement pour lesquelles il y a un retour sur investissement, enfin assez rapide. Enfin, je parlais de modèle économique tout à l'heure, qui est un des problèmes de l'IoT. Là, on sent qu'il y a un modèle économique évident et un confort et un bien-être et de la sécurité en surcroît. Comme on n'a jamais eu, on n'a jamais pu jusqu'à présent avoir cette vision. Par exemple, moi je serais un élu, un responsable des maternelles de la mairie de Paris, je serais heureux. D'ailleurs, il y a une pièce, je crois, qui existe, il y a une sorte de tableau de bord le matin, on sait ce qui se passe dans chacune des classes si on veut le savoir. Puis surtout, dans les alarmes qui sont montées, et derrière les alarmes, il y a des actions, hein, de maintenance en particulier.
C'est là où ça réinterroge le social, c'est-à-dire entre le potentiel de l'IoT et le social, c'est de se dire comment est-ce que derrière, le corps social va le digérer. Quand on voit par exemple que dans une entreprise, le fait juste d'avoir une traçabilité pour la cantine avec une carte et un pass anonymisé, les partenaires sociaux s'y sont opposés parce que derrière, il y a une possibilité de flicage. Et quand tu parlais dans les écoles de savoir ce qui se passe en temps réel, ce qui était vraiment une chance extraordinaire dans la gestion de l'optimisation, mais c'est aussi un risque formidable de se dire qui va regarder, comment est-ce qu'on va gérer ça.
Oui, il n'y a pas, personnellement, je parlais des IoT Awards que j'ai conçus et que je remets chaque année. Il y a quelque chose de natif dans les IoT, c'est qu'on se préoccupe d'entrée de jeu de la problématique. En principe, on se préoccupe d'entrée de jeu de la problématique des données, en fait, du respect donné, de la CNIL, du RGPD, enfin, on a la totale, quoi. Et personnellement, il y a un prix que je remets, moi, sur les projets, je le vois chaque année, je mets un prix du projet compliant, au sens, c'est pas très français, j'en suis désolé, j'ai pas trouvé vraiment l'équivalent, au sens où je vois des sociétés, que ce soit start-up ou pas, qui proposent des projets qui intègrent d'entrée de jeu cette question-là. Ça peut se faire, il faut être très attentif aux règlements, aux lois, aux textes, mais on sait faire des applications IoT qui intègrent tout à fait ça. De toute façon, quelque part, la CNIL nous attend, si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas déployer des applications avec des dizaines, des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers d'objets connectés si vous n'avez pas intégré ça un petit peu dès le départ, hein, comme on dit « by design », quoi, dès le départ de l'application. Et justement, ça m'amène à parler des smart cities, qui sont un autre très grand domaine des objets connectés. Alors là, c'est varié. Ça tourne autour de la mobilité, aussi de la sécurité, des biens et des personnes. Ça tourne aussi autour de la propreté. Il y a des capteurs qui permettent, par exemple, de mesurer. Alors, c'était déjà ancien, ça existe. Moi, j'ai vu ça à Toulouse il y a très longtemps. On connaît les taux de remplissage de certains packs de récupération des ordures, vous voyez, publics. Bon, ça permet d'optimiser les tournées. Quand il y a un bac qui est plein, ben, on va aller le vider. Puis, on ne va pas envoyer un camion et du personnel pour aller vider des bacs qui sont vides, ou quasiment vides, vous voyez. Donc, on a de l'optimisation de cette nature-là, des services aux administrés qui sont un petit peu améliorés. On a des services aussi grâce aux éclairages publics connectés, on sait faire de l'éclairage à façon, entre guillemets. Il y a du monde, on a vu ça tous les uns les autres. Il y a quelqu'un qui va passer sur une route la nuit, les éclairages vont s'allumer, et puis s'éteindre derrière un moment. Après, ça fait faire des économies, c'est très important. Et puis il y a aussi dans les villes, dans les smart cities, il y a aussi la gestion des parkings, des places disponibles, on peut avoir des images en temps réel. Là, nous, les conducteurs ou les administrés, des places disponibles, pas disponibles, etc. Bon, la Smart City, c'est tout un devenir, c'est un énorme mouvement qui s'appuie beaucoup justement sur les objets connectés de différentes natures, y compris sécuritaires, mais pourquoi pas, hein, si c'est, encore une fois, si c'est fait proprement, on en parlait il y a deux secondes. Aujourd'hui, bon, les caméras connectées qui sont des objets connectés, fonctionne très bien, voilà.
Après, tout dépend aussi, c'est là où la remarque, c'est qu'à la fois, le potentiel technologique est là, mais derrière, il y a un vrai choix politique ou social. Quand on voit, par exemple, les caméras, la reconnaissance faciale en Chine, où ce journaliste s'était caché, et à une certaine heure, l'État devait savoir où il était. Et donc, grâce à la traçabilité donc, des caméras, et bien sûr le suivi avec l'intelligence artificielle, ils ont mis moins de 3 minutes pour retrouver ce journaliste. Ça veut dire qu'un État policier a une arme extraordinaire. Donc, ça veut dire que derrière, ce n'est pas neutre non plus. C'est pour ça que socialement, peut-être qu'il faut que le corps, politiquement, fasse des choix aussi de tous ces potentiels.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je sais qu'en France, il y a quand même, on est très attentif à ça, on est très avancé aussi sur ces aspects-là, on est très sensible, on a énormément d'associations et autres et d'institutions qui surveillent tout ça. Bon, évidemment, hein, rien n'est parfait, ça avance très très vite. Je ne sais pas à l'heure qu'il est s'il y a des applications de cette nature-là qui sont développées hors système. Lié à la défense nationale, par exemple, hein, je sais pas, détection à des frontières ou autres d'individus ou autres. Mais je ne sais pas s'il y a des cas comme ça. Je sais qu'il y a une ville qui veut tester, par exemple, des micros connectés, hein, donc des micros au sens du son du terme, effectivement, pour pouvoir avoir des remontées d'alerte s'il y a des bruits intempestifs anormaux. Qui pourraient être des bruits de pétarade comme des bruits de fusillade, hein, ou des bruits à des horaires anormaux, à des endroits anormaux, vous voyez, bon, ça peut donner une sorte de pré-alerte. Bon, voilà, après, on peut toujours avoir peur que ça aille trop loin, mais encore une fois, je pense qu'on est très conscient de tout ça, et il y a quand même beaucoup de travail pour encadrer ces applications. Je continue ma liste, moi, ma liste des.
Allez, sachant qu'on arrive presque à la moitié, donc la deuxième partie, c'est la formation.
Bien sûr. Et donc, je continue ma liste quelque chose qui se passe en ce moment, vraiment, où il y a un très, très fort mouvement des entreprises autour des objets connectés, c'est pour tout ce qui concerne la gestion et le suivi des actifs. On appelle ça le tracking des assets en français, hein. Donc, cette idée, on a énormément de marchandises, donc d'actifs qui se baladent, qui vont d'un point A à un point B, à un niveau français, national, européen et mondial. Et on a absolument besoin, et on sait le faire maintenant avec des objets connectés, systématiquement, de tracer, de savoir en temps réel où se trouve tel colis, tel véhicule, quand c'est du transport de voiture, par exemple, à l'autre bout de l'Europe, sur les trains, ce qui s'est passé sur tel colis parce que c'était une chambre frigorifique ou un wagon frigorifique, et on veut être certain que pendant toute la durée de son déplacement, il n'y a pas eu de problème de température, par exemple. On a vu récemment des annonces, je crois que c'est Michelin qui veut surveiller qui fait un objet connecté pour surveiller les conteneurs sur les navires, par exemple. Donc voilà. Donc
Casino avait fait quelque chose pour les usagers en montrant que tant qu'il y avait une pastille de couleur, quand il y avait dans la chaîne du froid, il y avait une cassure, ça devenait rouge et donc il ne fallait pas le consommer, sinon ça restait vert et donc les gens pouvaient l'utiliser. Donc ce sont des usages complètement nouveaux.
Là, c'est très passif, hein. Du coup, c'est un système réactif, en fait, passif. Là, maintenant, on fait des objets connectés qui nous permettent de surveiller. Par exemple, sur les awards, on a récompensé une société belge qui est en train de travailler pour donner plusieurs paramètres sur des colis, des choses très simples qui sont alimentées, des petits objets connectés qui sont alimentés par les vibrations et les chocs que les colis rencontrent lors de leur déplacement. Donc, ils récupèrent l'énergie, vous voyez, c'est de la micro-énergie qui est récupérée, rien que sur les chocs et les vibrations du colis. Et en échange de poids, avec cette énergie, et cet objet connecté va surveiller différents paramètres, notamment les chocs si on transporte du verre, par exemple, des appareils fragiles, les températures, les vibrations, le son, enfin, il y a plein de choses qu'on peut surveiller. Et alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment d'avoir un regard synthétique. Par exemple, si je suis une entreprise qui envoie du matériel très coûteux ou très fragile à l'autre bout du monde, ce qui m'intéresse, c'est effectivement avoir un regard sur toutes mes marchandises, où est-ce qu'elles sont à l'instant T, qu'est-ce qui se passe pour tel et tel truc. Si j'ai une alerte parce que j'ai eu des chocs sur tel et tel colis, alors je vais pouvoir préventivement prévenir mon client ou demander à un distributeur d'intervenir, etc. Là, vraiment, c'est un énorme marché, les assets. Et puis, il y a plein de cas qui sont encore un peu confidentiels parce que nos entreprises sont, on comprend très bien, en train de travailler là-dessus. Après, j'avais prévu de vous parler des assurances. Les assurances, c'était les premières à se préoccuper des IoT parce qu'elles ont, dès 2014, d'ailleurs, elles ont compris que si on pouvait avoir des informations sur la façon dont les conducteurs, certains conducteurs se comportaient, les véhicules se comportaient, eh bien, ça pouvait changer leur métier. Ça pouvait changer la façon dont elles pouvaient assurer ou calculer les primes, par exemple. Et là, on est aussi, on frise l'apprentissage. Il y a des projets maintenant qui tendent à vouloir proposer aux jeunes conducteurs et même aux motards, j'ai vu ça récemment, une connexion, un objet connecté qui permet d'avoir une synthèse de sa façon dont il se comporte et de pouvoir ensuite lui envoyer des recommandations ou lui dire attention mon gars, d'ailleurs c'est dans un, je crois qu'il y a un projet de gants connectés pour les jeunes motards, pour les motards. On lui dit attention là, tu conduis dangereusement, tu vas te prendre une super prime, donc non seulement tu risques d'avoir un accident, mais en plus, ta prime va changer, et puis surtout, on peut calculer le kilomètre et facturer, entre guillemets, l'assurance au kilomètre réel parcouru tous les mois, tous les 6 mois, etc. Les assureurs sont assez en pointe. Bon, ils n'ont pas encore trouvé le modèle. Par contre, eux, ils ont un problème de modèle économique, hein, parce qu'ils comprennent que ça risque leur coûter, mais ils ne savent pas trop comment ensuite ils vont rentabiliser tout ça. Mais on est...
De retour, par exemple, par rapport à l'exemple du motard, ça peut être un très bon exemple pour un peu imaginer comment ça peut être transposé pour l'apprentissage. Apprentissage individuel, comment les machines connectées, les objets connectés peuvent permettre un potentiel de maîtrise d'information et de personnalisation d'information et aussi de retour.
Exactement, c'est pour ça que je cite ce cas. On est là dans quelque chose qui est en train de changer. Une autre façon, justement, d'apprendre. Et alors, ce qui est intéressant, alors je passe sur les autres domaines dont j'avais prévu de parler. Le domaine de la santé avec.
Ce qu'on pourrait faire, c'est le mettre en lien. Si tu veux bien nous envoyer les liens, comme ça, après, on les mettra dans les notes de l'émission pour que les gens puissent aller plus loin.
Bon, j'avais prévu de parler de santé parce que dans la cardio, par exemple, il y a beaucoup de projets d'objets connectés où là, on veut connecter en temps réel des personnes à risque, à grand risque, les laisser vivre. Et puis, si on a des préalertes, ma foi, on va les chercher.
Et la France est très en pointe sur ces sujets-là dans le monde.
Non, on a ça aussi pour certains types de...
Alors, serait-ce à dire que tu parles de tout ce qui est autour de la formation parce qu'il n'y a rien à dire sur la formation?
Oui. Alors, la formation... D'abord, je fais un petit aparté sur la formation aux IoT. Parce que depuis 2-3 ans, j'organise des tables rondes dans le cadre de ces conférences IoT. Et j'essaie toujours de faire une table ronde sur la formation. Et j'ai remarqué quelque chose que je voulais vous soumettre de manière très à plat et sans aucun jugement. C'est qu'on a d'un côté des très, très grandes écoles. Alors là, je parle de Polytechnique, je parle de ParisTech Télécom Évolution. Qui ont très vite proposé des offres de formation autour des objets connectés. Hein. Mmh. Et puis, ça, c'est, j'allais dire, un côté, une sorte d'extrême. Et de l'autre, on a des écoles, des écoles d'ingénieurs, des écoles informatiques un peu plus traditionnelles, quelques-unes qui, elles, ont, compte tenu de l'hétérogénéité technologique dont je parlais, qui est propre aux IoT, qui effectivement ont déjà proposé et proposent à leurs élèves des formations autour de la conception des objets connectés. Les grandes écoles sont plutôt sur une compréhension des recherches autour de systèmes, de modèles, etc. sur les IoT, et puis les écoles d'ingénieurs, elles, comme on peut s'y attendre, renforcent et hétérogénéisent leur formation avec des télécoms, de l'électronique, de l'informatique et du traitement de data.
Donc, si un responsable de formation veut se former aux usages de l'IoT,
j'ai remarqué qu'il y avait quelques formations un peu justement de cette nature-là qui sont un petit peu généralistes, je veux dire, qui ne rentrent pas dans la technique tout de suite. Il y en a quelques-unes, j'en ai vu quelques-unes. Bon, je n'ai pas de nom particulier à donner, mais oui, j'en ai vu. Il y a même des gens qui ont des démarches particulières, qui veulent former une société dont j'ai oublié le nom, qui veut faire ce travail de formation, de pédagogie auprès du grand public sur ce que sont les objets connectés. Donc, ils ont une démarche particulière là-dessus. Je suis désolé, j'ai oublié leur nom, je ne sais pas avec.
Et c'est très important parce que les responsables de formation, une fois qu'ils ont compris à quoi peut servir l'IoT dans leur fonction à l'intérieur de l'entreprise et puis en rapport avec l'extérieur, ça leur permet aussi après d'être prescripteurs et d'enclencher un écosystème nouveau.
Tout à fait. Alors, j'en viens au métier de la formation, parce que du coup, je parlais de la formation aux IoT, mais le métier de la formation, il y a quelque chose que je remarque et qui est un peu mon credo, c'est que les objets connectés, c'est quoi? C'est une culture du temps réel, une culture de l'information que l'on a sur les machines et les systèmes qu'on n'avait pas auparavant, ça c'est évident, je vous ai donné des exemples tout à l'heure, et ce que j'appelle moi, je pense qu'on va avoir, nous, socialement, tout le monde, une sorte d'imprégnation culturelle liée aux IoT, au fait de savoir, de connaître, de piloter, de monitorer, de télémaintenir, d'avoir des visions, entre guillemets, intelligentes, synthétiques, sur ce qui se passe autour de nous. Et je me dis que cette imprégnation culturelle, elle va appeler forcément dans tous les domaines qui nous concernent, individuellement ou professionnellement ou collectivement, elle va appeler une demande spécifique de chacun, justement, notamment en matière de formation. On veut autre chose, on ne veut plus apprendre de la même façon. On sait monitorer, par exemple, vous allez former, je ne sais pas, je donne un exemple, vous allez former quelqu'un à comprendre et à réparer un moteur. Demain, grâce aux objets connectés du moteur, qui sont sur le moteur, je pense que c'est le moteur lui-même qui va aller apprendre à quelqu'un qui en aurait besoin, ou dire à quelqu'un qui en aurait besoin, voilà comment tu dois me manipuler, voilà ce que tu dois changer de moi, voilà de quelle façon tu dois travailler à mon égard. Et voilà comment je fonctionne. Vous voyez cette espèce de changement comme ça, de retournement, très intéressant. Je pense que...
Alors, ça veut dire que si je comprends bien, le moteur qui dit à la limite, voilà comment qu'est-ce que tu devrais changer chez moi, comment tu devrais travailler avec moi, il pourrait très bien dire, par exemple, en réparation, il commande directement la réparation, finalement, on n'a plus besoin de l'homme, ce sont les machines qui parlent entre elles.
Bon oui, si les machines sont capables de faire la réparation elles-mêmes, oui. Je vous rappelle qu'historiquement, c'est par ça que j'ai commencé. On était sur le M2M, c'était ça, c'était un peu l'objectif. À l'époque, on ne pouvait pas trop le faire parce qu'on n'avait pas cette chute des coûts et la montée des puissances. Hein, à l'époque, il y a 15 ans, on n'en était pas là. Aujourd'hui, on a des puissances formidables. On sait faire durer des capteurs pendant 10-12 ans sans changer les piles. Parce qu'on sait absolument minimiser et la place et la consommation des composants électroniques. On sait couper, par exemple, un processeur tant qu'on n'en a pas besoin, puis tout d'un coup, tac, on le réactive parce qu'il y a quelque chose à calculer. Et comme ça, on sait faire durer très longtemps certains objets connectés. Ça, on ne savait pas le faire autrefois. Après, c'est un peu cette idée, c'est que je pense que ça va remettre en cause pas mal, enfin, peut-être même la pédagogie, en tout cas le processus d'apprentissage. Le fait que les objets, quelque part, nous parlent. Et, moi, je me souviens de ces problématiques homme-machine que nous avions il y a 20 ans. Et ben aujourd'hui, je crois qu'avec les objets connectés, on va se retrouver sur les problématiques machine-homme. D'accord? C'est justement, c'est l'interface, c'est comment la machine me parle. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple grand public. Une nouvelle voiture, un peu haut de gamme, certes, je crois que c'est chez Audi. Qui va sortir, là, ou qui est sortie, elle comporte 27 aides intelligentes à la conduite. 27 aides intelligentes à la conduite, d'accord? Je ne vous raconte pas combien en dessous il y a de connexions, de calculateurs, d'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Et je me dis, mais d'ailleurs, on a posé la question pendant le salon IoT World, mais comment ces 27 systèmes intelligents vont parler au conducteur? Vous voyez bien qu'on inverse le propos. On voit bien que ça va dans l'autre sens. Et d'ailleurs, même personnellement, j'ai une voiture qui m'engueule quand je commence à dépasser sur la gauche, à rouler sur une bande blanche, qui m'envoie des signaux parce qu'elle croit que je vais taper une voiture devant moi, ou etc., etc. Donc je vois bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, même dans ma façon de conduire. Parce que du coup, je ne veux pas la faire biper. Ça m'embête qu'elle m'envoie des signaux d'alerte ou des signaux, des vibrations dans le volant. Enfin, vous poussez un petit peu le bouchon, vous vous mettez sur des choses plus complexes et vous vous projetez à 5 ans, par exemple, ou à 10 ans. Vous voyez bien que c'est bien l'humain qui va être dans cette fonction d'apprentissage par rapport à la machine elle-même, dans le sens machine-homme. Hein, ça va être assez intéressant. Et ceci dit, ça chasse aussi le fantasme du truc qui marche tout seul. Enfin, personnellement, j'adhère pas à ça.
Même si dans la voiture autonome, par exemple, finalement, ça fonctionne tout seul.
Elle fonctionne toute seule et pas toute seule. Il y aura toujours besoin d'avoir. Déjà, les assureurs seront là pour nous rappeler qu'il faut un responsable. Et c'est surtout quelque chose qui est un peu caché, dont on ne parle pas explicitement, parce que ce n'est pas grand public, c'est le fait qu'une machine autonome ne peut pas être autonome. Une machine autonome, elle doit être connectée à des infrastructures. Voilà. Personnellement, j'ai eu la chance de monter dans des voitures autonomes sur des circuits fermés. Mais on se rend très bien compte qu'une machine autonome, elle n'est pas autonome parce qu'elle a besoin de communiquer avec le feu rouge, de communiquer avec la carte qui va lui être envoyée précisément sur le lieu où on se trouve, avec des signaux divers et variés qui se trouvent là dans les infrastructures routières. Hein. Donc, bon, elle ne sera pas vraiment 100% autonome. À ma connaissance, il y a eu quelques cas il y a très longtemps. Notamment chez les militaires, mais pour des raisons très très différentes, de robotique qu'on enverrait sur Mars et qui se dépatouillerait. Mais même là sur Mars, vous voyez bien qu'il y a encore des gens qui sont là, quoi. Hein.
Donc, il y aura cette relation avec l'humain. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, au lieu de parler d'objets connectés, parler de systèmes connectés? Et là, on se poserait la question du rôle ou éventuellement le nouveau rôle potentiel du formateur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est objet, système et service. Hein, donc il y a sont trois échelons pour moi qui sont importants à intégrer. Et puis effectivement, le formateur là-dedans, je sais pas où est sa place en fait vraiment. Moi-même, je suis formateur, vous voyez, donc je me pose la question pour moi. Forcément qu'il y a une valeur ajoutée humaine hein, et qui sera probablement impossible à remplacer. Dans certains types de formations. Pour des formations de type, par exemple, industriel, maintenance, etc., là, effectivement, avec la 5G, la VR, et le fait que les machines communiquent, vers nous ou entre elles, bon, c'est clair que l'apprentissage va complètement changer. Ça va être un apprentissage où, on va nous guider, nous montrer, nous tenir complètement, l'outil, le stylo, etc., et peut-être même le cerveau, aller savoir. Deux choses encore qui m'intéressent.
Quand on voit la VR avec le retour haptique, par exemple, et tous les investissements, on parlait du gant, il y a à Laval, ils ont montré un gant avec un retour haptique. C'est-à-dire, quand on tourne une machine, on sent toute la dureté du volant, etc. Si, quand la machine est un peu complexe, quand on fait des exercices, on sent toute cette difficulté qu'on a. Tout ça, c'est du programme. On s'aperçoit que toutes ces pédagogies immersives vont pouvoir se développer très facilement maintenant.
Oui, tout à fait. Avec quelque chose de très intéressant de mon point de vue que vous évoquez, c'est le fait que dès l'instant qu'on travaille sur l'homme ou avec l'homme, il faut garder plusieurs sens humains dans l'interface. Hein. Bon, il y a des travaux qui ont été menés de manière très, très, très poussée, notamment dans l'aviation. Qui ont conduit à montrer qu'il fallait absolument que l'humain n'ait pas que la vue, par exemple, que l'ouïe, pour piloter, apprendre ou travailler, qu'il fallait lui envoyer d'autres, il fallait faire travailler d'autres sens, notamment le toucher, hein, la résistance à quelque chose, des vibrations qu'on aurait supprimées, qu'on remettrait, parce que tout notre corps a besoin de ça pour apprendre et pour réagir dans une situation d'urgence en particulier. Ça, vous voyez, c'est pour ça que je dis que cet humain-là, il est au cœur de quelque chose. Il ne sera pas supprimé, je veux dire. Il est trop essentiel. Hein, il est trop puissant, quelque part, trop essentiel.
Aussi, sans oublier que quand on introduit un objet quelconque, il y a tout ce qui est dimension, accompagnement au changement qui se joue. Et là, je me pose la question, après c'est mon propre opinion, de dire qu'on a besoin d'humains pour gérer ce genre d'aspects, culture, valeurs et les comprendre.
Probablement. Je vois pas comment on peut s'en passer. Il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est, voilà, je regarde avec circonspection, mais enfin, il faut quand même regarder les choses en face. C'est tout ce qui concerne le monitoring de l'humain. Dans l'apprentissage, je pense que tout le monde le sait beaucoup mieux que moi. L'humain est apte à apprendre à certains moments, dans un certain état, dans certaines phases. Voilà, d'accord. Et il se trouve qu'avec les objets connectés sur la partie santé et bien-être, on commence à savoir dire et montrer en temps réel dans quelle phase émotionnelle ou autre, fatigue, etc., se trouve l'humain. Et je me suis dit, en réfléchissant à cette intervention ce soir, que bientôt nous aurons tous, et vous en particulier, on sera tous obligés d'optimiser peut-être les moments d'apprentissage selon notre état. Et cet état, il nous sera donné par un bracelet, par exemple, qu'on pourrait porter, ou on en parlait tout à l'heure, de t-shirts ou de vêtements ou de ceintures ou ce que vous voulez, qui feront que oui, sur cette fenêtre-là, je suis disponible à un apprentissage parce que je suis dans un état mental, émotionnel, d'attention, etc., qui va bien. Mon système connecté me le dit. Hein?
Exactement. Et c'est même mieux.
Personnalisation, en fait.
Pardon?
On sera dans l'hyper-personnalisation des services.
Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, tout pousse avec les IoT à l'hyper-personnalisation. Tout pousse avec les
Alors,
IoT.
quand on voit les enquêtes, on s'aperçoit que les machines savent mieux que les hommes ce dont ils ont besoin. parce que les hommes ne connaissent pas bien leur historique, alors que la machine, une fois qu'elle le recalcule, elle est capable de savoir précisément quels sont les temps d'attention, les biorhythmes, etc. Et on a suffisamment de retours. Ça voudrait dire que la machine nous dirait à quel moment c'est mieux pour nous de nous immerger dans une réalité virtuelle, à quel moment c'est mieux pour nous d'apprendre de façon optimisée.
Et, voilà. Et donc, alors, je parlais de circonspection parce que vous comprenez bien que là aussi, les dérapages sont tentants et immenses. Hein. Je ne vous ai pas parlé des applications dans l'agriculture, mais c'est vrai que l'autre jour, j'étais dans un lycée agricole où c'est vrai, on connecte du bétail pour en connaître effectivement les phases, l'état de santé, les aspects de reproduction, enfin j'en passe des meilleurs, et puis on peut même prédire la production laitière, etc., de chacun des animaux, etc., la température, etc. Bon, attention avec les humains, mais il est évident que bon, il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait faire que pour l'apprentissage ou pour certaines tâches, pour certains besoins, exactement comme on le fait dans le sport, on va se trouver apte, le système va dire, vous êtes apte à optimiser votre apprentissage ou votre learning, votre e-learning ou je ne sais quoi, parce que vous êtes dans une phase de repos, machin, concentration optimale. Hein.
C'est ce que Google avait donné avec un slogan qui était un peu prématuré en 2001. Il disait, les gens restent chez moi, les managers sont motivés parce qu'on leur donne tout ce dont ils ont besoin avant même qu'ils en aient envie.
Ouais.
Grâce à leur algorithme. Et ça réinterroge le contrat social avec la machine.
Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une demande. De toute façon, vous le savez encore mieux que moi, il n'y a pas d'apprentissage réussi s'il n'y a pas de demande de la personne elle-même. Et tant qu'à faire, je crois qu'on a tous subi ça. On a envie d'apprendre au moment où on est disponible, on a du cerveau disponible, et au moment où il y a la curiosité et tous les éléments qui font qu'on va apprendre utilement plutôt que subir. Un apprentissage. Et ce sera là probablement la limite, l'homme connecté, entre guillemets, voilà, sa limite, elle va être là. Je veux qu'on optimise quelque chose qui, pour moi, serait pénible à faire ou que je ne pourrais pas faire autrement. Voilà, c'est la limite à cet endroit-là. Je fais le parallèle avec les sportifs parce que les sportifs aujourd'hui, je regardais encore dimanche, il y avait une compétition de tennis chez les femmes. Alors, pas chez les Françaises, mais chez leurs adversaires. Dans leur maillot, on voyait qu'elles avaient un objet connecté. Non, bon, là, c'est souvent dans le dos. Je ne sais pas si vous regardez les footballeurs ou les rugbymen. Ils ont des maillots et derrière, dans le dos, juste en dessous du cou, il y a, on le voit légèrement, il y a des objets connectés qui permettent de connaître en temps réel, donc bien sûr, tous les déplacements, de calculer les accélérations, de voir les températures, de voir l'hydratation. Donc, on a énormément de paramètres. Là, je parle de sportifs de haut niveau, ça vaut la peine. Et puis ensuite, derrière, on l'entend réel. Peut-être que les médecins sur les bancs du stade, par exemple, peuvent avoir des alertes en disant « Attention, tel joueur, il faut le sortir. Ou il n'est pas hydraté ou il a tel problème. Il monte en température, je ne sais pourquoi. » Donc, ça, c'est super intéressant. Mais c'est surtout après, une fois qu'on débriefe tout ça, qu'on traite tout ça, qu'on regarde comment apprendre, comment transformer, comment améliorer la performance pour qu'il y ait moins de souffrance, etc. Comment aller pousser plus loin ou pas. Là, on parle de sportif, donc c'est physique, mais ça peut être la même chose sur le plan intellectuel. On n'est pas très loin.
Et si un responsable de formation ou un formateur voulait se lancer dans l'IoT, tu lui conseillerais de démarrer comment? Quelqu'un qui se dit par quel type d'objet?
Ah, moi, je crois que vraiment, ce qui me passionne, alors, sauf s'il est dans l'industrie, où là, il a une consonance très, tout de suite partir sur les problématiques prédictives. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce dont on parle, c'est-à-dire essayer de savoir, d'avoir des informations sur les impétrants, les élèves ou les stagiaires, et d'essayer effectivement, de travailler avec des sociétés qui sont en train déjà d'étudier ce qui se passe au niveau de l'humain tout au long des phases de travail, de la journée, etc. Je crois que c'est par là que je commencerai. Il y a des labos qui sont déjà dessus, il y a des industriels qui travaillent là-dessus, il y a du monde, hein, il y a du monde. Et évidemment, après, on a les neurosciences qui sont juste là à côté. puisque les objets connectés, c'est de la donnée, ils vont nous chercher de la donnée. Cette donnée, il nous faut une certaine intelligence et une puissance de traitement. L'intelligence, c'est souvent des petits modèles d'intelligence artificielle qui sont à un niveau bas, c'est-à-dire très proche des objets eux-mêmes. Et puis, du big data, de la donnée à des niveaux plus hauts, où là, on va étudier des choses qu'on va pouvoir consolider, comparer à des modèles, etc. Modéliser, chercher des règles de comportement, par exemple. Et donc, les neurosciences sont toutes proches, hein, elles sont juste là, à la porte d'à côté.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un potentiel en ce qui concerne l'apprentissage collectif? On parlait de la dimension sociale, c'est une autre dimension sociale. Et dire, voilà, on monte un projet de formation, que ce soit à distance ou physiquement. Et est-ce qu'il n'y a pas un potentiel justement de donner un levier pour ce qu'on appelle de l'intelligence collective, faire travailler des gens, que ce soit de manière, qu'ils soient au même temps ou à des phases différentes, et pour créer, monter un projet sous l'égide de l'apprentissage collectif.
Là, je ne sais pas, c'est un futur qui est peut-être plus proche qu'on ne le pense, parce qu'effectivement, en matière d'intelligence collective, il y a beaucoup d'avancées, hein, avec des outils très, très puissants. La connexion avec les objets connectés, je ne la vois pas là, je n'ai pas d'exemple en tête. Mais je me dis que c'est pas si loin que ça, c'est probablement pas si loin que ça. Oui. Voilà.
La question se pose.
Exactement, d'autant plus qu'avec, quand on parle de la VR, on a la possibilité de réduire les distances, puisqu'on peut travailler dans le monde entier sur des projets communs, avec des hologrammes et des très belles choses qui se font, et ça permet de voir véritablement soi-même comme un être identifié, être scanné, avec ses vraies façons de montrer ses émotions, et donc de recréer du social grâce au numérique. Donc, il y a des outils qui se vulgarisent de plus en plus. Il y a de très, très belles expérimentations. Je pense à Watch Party, qui est beaucoup plus particulier sur Facebook, mais qui permet justement de refaire du collectif. Et donc, c'est une nouvelle façon d'appréhender ça avec une vraie liberté, c'est que le monde entier s'appelle à nous.
Oui, exactement. Exactement. Là, c'est vrai que c'est super intéressant. De toute façon, c'est en devenir, c'est ce que je disais au début, que tout est à inventer, en fait. Tout est à inventer. Il y a simplement à se. Évidemment, comme chaque fois qu'on invente, eh bien, on va se tromper, on va parfois partir dans des impasses terribles, on va peut-être être déçu, mais la vie est faite de déceptions et on se relève et on recommence autre chose à côté. Je crois que dans les objets connectés, vraiment, l'avenir appartient à celui qui a l'imagination et aux personnes qui osent faire. Alors, j'ai en tête une conversation que j'ai eue avec une très grande entreprise du transport, et je parlais avec quelqu'un qui disait, on essaie de faire des objets connectés, on essaie de faire des objets connectés, on fait des petits protos, on en a absolument besoin, on sait que si on ne sait pas les développer, on va se faire décaniller par nos concurrents, mais on a un problème, ça ne passe jamais la barre du codir, et au codir, on a quelqu'un qui nous bloque à chaque fois. Et je dis, mais madame, là, vous êtes vraiment dans une terrible difficulté. C'est-à-dire que cette personne, il faut qu'elle change son esprit ou qu'elle s'en aille parce qu'elle va vous mettre complètement dans le rouge. Vous allez être complètement en retard, quoi. Je ne peux pas citer cette société, mais je sais que c'est très fréquent dans les entreprises. Le fait d'imaginer des nouveaux services, des nouveaux modèles, des nouveaux services à délivrer, des nouveaux modèles économiques, quand on a fonctionné pendant des décennies sur un truc un peu standard et qui fonctionnait jusqu'à présent, est extrêmement douloureux. Tout le monde ne sait pas faire cette bascule. Il y a une part de risque, en quelque sorte, qui est très difficile à gérer.
C'est ce qu'on peut voir avec, par exemple, la place des robots comme formateurs robots. Évidemment, l'idée dérange tous les formateurs déjà parce que ça réduit beaucoup leur capacité. Le robot étant disponible 24 heures sur 24 pour peu qu'on l'ait à domicile. Mais souvent, c'est la même façon d'aborder. On aborde ça par les maladies pour vendre ça. Et donc, sur Alzheimer, au Japon, ils ont testé ça. Donc, ce sont des répétiteurs. Et donc, ça marche très bien pour ceux qui doivent à la fois réciter, connaître du vocabulaire, etc. Avoir des robots qui sont assez ronds en général, de façon à ce qu'il y ait une certaine affection. Et on s'aperçoit qu'on commence à avoir des liens quasi thérapeutiques, l'empathie du robot avec le robot. Et donc, il s'approche des nouvelles façons d'apprendre qui sont très intéressantes parce qu'on commence à avoir des retours d'expérience. Et faisant ça pour les malades, au bout d'un moment, quand le modèle commence à tourner, on bascule ça en disant ben, « connectez-vous, vous avez tout ce que vous voulez apprendre avec ces agents conversationnels ». On parle à quelqu'un, donc ce n'est pas tout à fait comme un ordinateur parce qu'il y a une forme qui n'est pas trop humanoïde parce que ça fait un peu peur, mais ça permet de faire des choses. Et donc, au final, étant 24 heures sur 24, soit les formateurs vont 24 heures sur 24 chez tous les apprenants, soit le robot présente aussi certains avantages.
Exactement. Je voulais parler, alors je change un tout petit peu de domaine, mais je voulais parler des métiers autour de l'IoT.
Et donc, on arrive à la fin. Très bien.
Oui, justement, je ne voulais pas qu'on se quitte pour en parler. Il y a des nouveaux métiers qui sont en train de s'inventer autour des IoT. Je vous parlais, par exemple, de ces dizaines de milliers d'objets répartis dans les maternelles, par exemple. Là, il faut bien qu'il y ait des personnes pour les déployer, des personnes pour les maintenir, des centres de maintenance 24 heures sur 24. Il y a donc un business model derrière, hein, parce que si vous ouvrez des services de maintenance, de surveillance d'objets connectés, eh ben, il faut bien que ça vous rapporte quelque chose, et réciproquement, ça a un coût. Donc il faut que quelqu'un paie. Mais, et de la même façon, au sein des entreprises, on est en train de s'interroger beaucoup, les entreprises s'interrogent beaucoup sur qui doit pousser, développer, qui est propriétaire des projets des objets connectés, autour des objets connectés. On n'est pas certain que ce soit la DSI, on n'est pas certain que ce soit les gens du business, parce qu'il y a du business derrière, hein, du nouveau business des services. On n'est pas certain que ce soit une direction à part qu'il faut créer. Là encore, bon, il y a des tentatives à droite, à gauche. Moi, j'ai en tête le cas d'une DSI d'une très grande entreprise qui me disait « Mais moi, je ne veux pas être embêté par les objets connectés. Je laisse ça à mon gars qui s'occupe de la logistique. » Mais bon, ils ne savent plus quoi en faire, donc ils le balancent au premier type, comme l'anglais, quoi, si vous voulez. Mais en fait, il y a une vraie réflexion qu'il va falloir se poser. Ça part du CODIR et il doit y avoir des gens qui sont formés, alors je ne parle même pas des développeurs, c'est évident, pour les nouvelles applications, et puis surtout pour la maintenance, ça va être vraiment, pour moi, une division ou une direction spécifique qui aura ses propres outils. D'ailleurs, il y a des outils de device management qui existent, des plateformes qui existent. Il va falloir effectivement les intégrer dans les entreprises et créer des nouveaux métiers autour de ces objets connectés, à côté des gens du big data, des gens du IA, genre de l'informatique traditionnelle. Là, pour l'instant, on est un peu dans le flou. Tout le monde tente des choses, et c'est ça qui est intéressant. Ça se passe en ce moment sous nos yeux.
Donc, et la France est bien positionnée dans le monde ?
On a une chance relative, c'est d'avoir une très forte capacité en intelligence artificielle, qui est utile. Relativement, on n'arrive pas à dissocier finalement, sauf dans des cas simples, mais on met beaucoup d'IA près des objets connectés, parce qu'encore une fois, les objets connectés, ils envoient des données. S'il n'y a pas un petit système qui va analyser ces données, autant qu'il soit automatisé et intelligent, donc par cette avance qu'on a, ou par cette force qu'on a sur l'IA, c'est vrai qu'on est pas mal. On a des très grands électroniciens, on a des très grands de niveau mondial, des entreprises sur la sécurité, notamment des objets connectés. On n'en a pas parlé, là aussi, c'est un domaine qui fait qu'on n'est pas en retard, loin de là.
Merci beaucoup, Philippe Grange, pour toutes ces informations. Vous nous donnez l'envie et le goût de cette aventure, qui est une vraie belle aventure, véritablement. Si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait ?
Si on veut me joindre, je suis joignable sur une adresse mail toute simple que je peux donner maintenant ou qu'on pourra afficher plus tard.
Très bien, on l'affichera dans les notes de l'émission. Donc, tous ceux qui veulent en savoir plus, et c'est vrai que ça soulève énormément de questions, n'hésitez pas à l'interroger. Dans ce cas, ce sera avec plaisir. Et si vous mettez sur les espaces de discussion, vous avez des questions, on les transmettra et ça nous permettra d'échanger ensemble dessus.
J'essaierai d'avancer d'y répondre. Merci à vous tous. Merci pour vos questions.
Merci Manal, au revoir.
Merci. Au revoir.